Mémoire d'un continent, tout à l'heure à 8h10 TU sur RFI.
Écoutez Radio France Internationale, il est 9h du matin à Islamabad, il est 3h de moins ici dans nos studios à Paris. Et Jeanne Bartoli nous rejoint pour le journal international. Bonjour Jeanne.
Et bonjour Vincent et bonjour à tous. Dans ce journal, les bureaux de vote doivent ouvrir en ce moment en Hongrie pour les élections législatives. Viktor Orban, confronté au plus grand défi politique de sa carrière, devancé dans les sondages par le candidat conservateur mais pro-européen Peter Maguiar. Hier, les deux candidats ont tenu leurs ultimes meetings. Reportage dans un instant. 15 heures de discussion et puis s'en va. La délégation américaine quitte le Pakistan sans accord avec les Iraniens. Pour autant, la porte n'est pas fermée pour l'instant à d'autres discussions. En Israël, ils étaient des milliers hier à Tel Aviv, mais aussi à Haïfa, des manifestants qui dénoncent ce qu'ils appellent la guerre éternelle au service du maintien au pouvoir de Benjamin Netanyahou. À la une également la présidentielle au Bénin, 8 millions d'électeurs appelés aux urnes aujourd'hui pour élire le successeur de Patrice Talon. Et puis le français Paul Sextas a mis fin à 19 ans de disette pour le cyclisme français en remportant hier le Tour du Pays Basque. Ils ont tenu hier leur tout dernier meeting avant le début des législatives. Aujourd'hui, en ce moment, puisque les bureaux de vote doivent ouvrir dans quelques minutes, le Premier ministre sortant Viktor Orban et Peter Maguiar se font face dans les urnes. Probablement le vote le plus ouvert de ces 16 dernières années. Viktor Orban est en difficulté dans les sondages. Le conservateur Peter Maguiar, qui défend un rapprochement avec les autorités européennes, était hier dans l'est du pays, une région habituellement acquise à Viktor Orban, pour appeler une nouvelle fois à la mobilisation générale. Reportage de notre envoyé spécial Julien Chavanne avec Hélène Bienvenue.
Il a fait environ 180 meetings à travers le pays au cours de cette campagne, mais cela fait en réalité 2 ans que Peter Maguiar court après le poste de Premier ministre. La ligne d'arrivée est en vue. Le candidat de Tissa fait étape à Balmazou-Ivaroche, où ses soutiens ne cachent pas leur fébrilité comme Victoria.
J'ai des sentiments ambivalents. Je voudrais vraiment un changement, car plusieurs fois j'ai cru que ce changement était possible. Et j'ai aussi peur que ça ne se produise pas et qu'Orban obtienne une super majorité au Parlement.
Laszlo est retraité et lui aussi espère énormément du scrutin.
Après 16 ans, on a la possibilité de se défaire du régime, car il ne faut pas juste changer de gouvernement, mais défaire le régime.
Dans cette dernière ligne droite, avant un vote incertain, le candidat appelle ses troupes à se mobiliser pour convaincre les indécis.
Je vous demande à tous d'être là demain, à tous, aux indécis, à ceux qui pensent que ça marchera sans eux ou que le bulletin ne compte pas. Réfléchissez à cette élection cruciale.
La Hongrie fait un saut dans l'inconnu, entre angoisse et excitation. Camarade Premier ministre, c'est la fin, lance Peter Maguiar à Viktor Orban, convaincu que son heure est venue. Julien Chavanne, Hélène Bienvenue, Balmazou-Ivaroche, RFI.
Et RFI est à Budapest aujourd'hui et demain pour vous faire suivre ce vote. Édition spéciale dès ce soir, 20h10 heure de Paris, 18h10 temps universel. Les résultats de ces législatives qui seront observés de près par la Russie et l'Ukraine. La Hongrie bloque en effet l'adoption d'un vaste prêt européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, où la trêve avec la Russie pour ce week-end de la Pâque orthodoxe n'aura pas duré. Kiev accuse Moscou d'avoir violé à 469 reprises. La trêve a entré en vigueur hier et évoque notamment 153 bombardements et 19 frappes de drones d'attaque. La délégation américaine quitte le Pakistan après des discussions hier avec les négociateurs iraniens. 15 heures de discussion directe au total, un niveau sans précédent entre les deux pays depuis la révolution islamique de 79. Jed Evans, le vice-président américain chargé de ces négociations par Donald Trump, a déploré l'absence de promesses fermes de Téhéran pour un abandon de son programme d'armement nucléaire, exigence clé de Donald Trump. Écoutez le vice-président américain.
Nous avons eu plusieurs discussions de fond avec les Iraniens. Voilà pour les bonnes nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne sommes pas parvenus à un accord. Et je pense que c'est une bien plus plus mauvaise nouvelle pour l'Iran que pour les États-Unis d'Amérique. Nous rentrons donc aux États-Unis sans avoir trouvé d'accord. Nous avons très clairement fait savoir quelles étaient nos lignes rouges, sur quels points nous étions prêts à faire des concessions et sur quels autres nous ne l'étions pas. Nous avons été aussi clairs que possible, mais ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions.
J.D. Vance, le vice-président américain. L'Iran, de son côté, avait confirmé la fin des discussions, attribuant leur échec aux demandes, je cite, déraisonnables des États-Unis, selon la télévision d'État iranienne. Dans un message publié sur le réseau social X, le gouvernement iranien a déclaré que les négociations s'étaient terminées et que des experts des deux parties échangeraient des documents. Et puis le Pakistan, de son côté, exhorte à l'instant les États-Unis et l'Iran à continuer de respecter leur cessez-le-feu de 2 semaines en vigueur malgré l'échec de cette première session de négociation. Pas d'informations en revanche, ni côté iranien, ni côté américain, en tout cas explicitement sur la question du détroit d'Ormuz, toujours de facto bloqué depuis le début du conflit. Hier, les gardiens de la révolution ont indiqué qu'ils allaient agir sévèrement contre tout navire militaire transitant par le détroit, déclaration après l'annonce du commandement central américain indiquant que 2 navires de guerre de l'US Navy avaient franchi la voie maritime stratégique pour neutraliser des mines posées par Téhéran. En Israël, à présent, on observe évidemment les négociations irano-américaines. Hier soir, Benjamin Netanyahou a de nouveau vanté des succès historiques, affirmant avoir desserré l'étau de l'Iran sur le pays. Mais cette rhétorique de victoire peine à convaincre une partie croissante de la population israélienne. Des milliers de personnes sont descendues hier dans les rues de plusieurs villes, notamment en Tel Aviv et Haïfa, pour dénoncer ce qu'ils appellent une guerre éternelle au service du maintien au pouvoir de Benjamin Netanyahou. Reportage justement devant la résidence du Premier ministre, Michel Paul.
Sous les fenêtres de la résidence officielle du Premier ministre, des centaines de manifestants dénoncent ce qu'ils appellent un gouvernement de l'abandon. Meir estime que le pouvoir en place trahit l'idéal national.
Le gouvernement d'Israël ne réalise pas la vision sioniste. C'est un gouvernement anti-sioniste, parce qu'il ne cherche qu'une guerre éternelle. En fait, il utilise la guerre uniquement pour rester au pouvoir.
Cette guerre éternelle, c'est aussi le slogan des dizaines d'organisations de défense des droits humains qui coordonnent ces rassemblements. Benjamin, militant socialiste, pointe du doigt un budget d'État aspiré par le conflit.
Ce gouvernement ne fait pas que couper dans les budgets pour financer sa machine de guerre. Et nous devons exiger qu'il transfère ses budgets vers, d'abord, la construction d'abris de manière égalitaire, particulièrement dans les localités arabes palestiniennes.
Malgré la pression policière, la mobilisation ne faiblit pas. Pourtant, chez les plus anciens, l'espoir d'un changement rapide s'efface devant un sentiment d'impasse. Ephraim, 75 ans, exprime cette amertume.
C'est un pays fasciste. Je crois que c'est un pays qui est foutu déjà. Pas de futur, pas d'avenir.
Des témoignages qui font écho aux propos tenus à Tel Aviv par les leaders du mouvement. Pour eux, le silence n'est plus une option face à un état d'urgence qui semble s'éterniser. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
RFI, 5 heures passées de 8 minutes à Porto Novo, le Bénin qui vote aujourd'hui. Près de 8 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire le prochain président qui va succéder à Patrice Talon au pouvoir depuis 10 ans. 2 candidats et leurs colistiers sont en lice, celui du pouvoir, Romuald Ouadani, et celui des FCBE, opposition dite modérée. Paul Ungpe, le principal parti d'opposition, les démocrates, ne participent pas à ce scrutin, son dossier ayant été invalidé par la commission électorale nationale. Les bureaux de vote ouvrent dans un peu moins de 2 heures dans le pays. Au Gabon, ce 12 avril marque le premier anniversaire de l'élection présidentielle à l'issue de laquelle les Gabonais avaient plébiscité l'ancien général Brice Clotaire Oligui Nguema, arrivé au pouvoir 2 ans plus tôt par un coup d'État. Le tombeur du régime des Bongos avait obtenu 94,85% des suffrages après une transition de 2 ans. Le 12, c'est le 12. Proclamait-il durant la campagne électorale en multipliant les promesses d'un avenir meilleur. Alors un an après, qu'en pensent les Gabonais? Reportage à Libreville avec Yves-Laurent Goma.
Dans les rues rues de Libreville, plusieurs citoyens ont désormais peur de s'exprimer en public. En plus de la suspension des réseaux sociaux, les interpellations des influenceurs, des syndicalistes et même des journalistes ont installé la peur. Du coup, ceux qui sont en désaccord avec le président préfèrent s'exprimer sous le couvert de l'anonymat.
Nous étions confiants, nous avions beaucoup d'attentes, mais là, l'impression qui est donnée, c'est que les choses sont en train de stagner.
Le président, c'est vrai qu'il fait les bonnes choses, mais on remarque qu'il est vraiment entouré de mauvaises personnes qui peuvent peut-être saboter son mandat.
Ces anciens-là ont fait ce qui était mauvais et ils sont toujours avec lui. C'est pas bon.
Cependant, un an après son élection, Brice Clotaire Oligingema, élu pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois, jouit encore d'un capital confiance très important.
Je suis profondément convaincu que le choix qui a été opéré par les Gabonais était le bon.
Un an plus tard, il y a quand même pas mal de réalisations dans le pays. La dynamique qui a commencé durant la période de la transition, on n'a pas vu qu'elle s'est estompée. Il y a plein de projets qui sortent de terre. Les promesses qu'il avait faites sont en train d'être concrétisées.
Il travaille. C'est le bâtisseur.
La fête sera grandiose le 3 mai prochain en référence au premier anniversaire de la prestation de serment du président élu. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI.
En plus bref, en Libye, sous l'égide des Nations des États-Unis, les organes législatifs rivaux de l'Est et de l'Ouest libyens ont signé un accord pour unifier les dépenses publiques à l'échelle du pays. Une première depuis 2013, annonce faite ce samedi par la Banque centrale de Libye, pays en proie à l'instabilité depuis la chute du pouvoir de Muammar Kadhafi en 2011, avec un gouvernement reconnu par l'ONU et basé à Tripoli et une administration établie dans l'Est. C'est un anniversaire au goût amer. En Russie, le 12 avril 1961, Youri Gagarine devenait le premier homme à aller dans l'espace. 65 ans plus tard, au lendemain du retour d'un équipage américain et canadien de la Lune, la mission Artemis 2, le temps des grandes pages de la conquête spatiale semble bien loin, tant le secteur russe a perdu de sa superbe, Simon Rosé.
Le premier satellite Spoutnik, le premier cosmonaute Gagarine, le premier à sortir en combinaison dans l'espace, Léonov, la première femme dans l'espace, Tereshkova. Le spatial russe est aujourd'hui loin de la grandeur qui fut la sienne. Et si en 2026, les États-Unis repartent vers la Lune, c'est avec la Chine qu'ils font la course. À peine la Russie est-elle mentionnée. Un déclassement dont s'alertait récemment le grand quotidien Moskovski comme Somoletz. Nous sommes à la traîne, titrait-il. Moscou reste bien un partenaire majeur de la Station spatiale internationale. Mais depuis le début de la guerre en Ukraine, la majorité de ses partenariats internationaux ont été annulés, une grande partie des financements ont été redirigés vers le militaire et les sanctions touchent également le secteur spatial. Certes, la Russie prévoit elle aussi son retour vers la Lune, mais le programme ne cesse d'être repoussé avec une prochaine mission, un satellite désormais prévu en 2028. D'ici là, l'an prochain, au mieux, Moscou entend mettre en orbite le premier module de Ross, sa nouvelle station spatiale, mais là aussi sans partenaire et les retards s'accumulent.
Et Simon Rosé du service environnement d'RFI, enfin la fin d'une longue disette française en cyclisme. Presque 20 ans sans victoire sur une course à étapes d'une semaine au niveau World Tour, la première division mondiale, jusqu'à donc ce week-end et le succès final hier du jeune prodige Paul Sextas. Autour du Pays Basque, on y reviendra dans le journal des sports. Et puis un mot de football, Arsenal a subi une très rare défaite à domicile en première ligue hier contre Bournemouth. 2-1, de quoi relancer l'espoir de titre pour son dauphin Manchester City à 6 journées de la fin.
RFI, toute l'actualité.
Jeanne Bartoli.
6h13, vous restez avec nous, 20 minutes d'infos et de reportages à suivre sur la radio du monde. Nous serons en Corée du Sud où les cerisiers japonais sont pointés du doigt comme un héritage controversé de la colonisation. On reviendra aussi sur les objectifs de guerre américains en Iran, déclenchés cette guerre fin février et qui pourrait avoir des conséquences pendant des années, nous dira Franck Alexandre. Vos chroniques du dimanche, c'est dans ta nature et vivre ailleurs. Et puis le programme de l'atelier des médias, évidemment, ce sera avec Steven Jambeau. Et direction donc la Corée du Sud où se sont un peu les cerisiers de la discorde. En ce début de printemps, la floraison des cerisiers fait le bonheur des touristes et des locaux qui viennent contempler ces fleurs rose pâle, décor féerique qui n'est pas au goût de tout le monde. Des militants espèrent en effet déraciner ces cerisiers japonais de Corée du Sud d'ici 2050, puisque ces arbres sont d'origine japonaise et pour eux font donc référence à la colonisation. Récit à Séoul, Célio Fioretti.
Yoshino, voilà le nom de la discorde. Ces cerisiers originaires du Japon représentent la très grande majorité des cerisiers présents en Corée. Des arbres que Yonjino et son association Cherry 2050 cherchent à remplacer par un équivalent coréen, le cerisier royal, qu'ils cultivent dans une pépinière.
Le Yoshino est une espèce japonaise, tandis que le cerisier royal est une espèce endémique de Corée. Ce n'est pas que les arbres japonais soient mauvais en soi, mais le cerisier est un symbole culturel fort du Japon. Il est lié à l'histoire et à l'idéologie japonaise. Pendant la colonisation japonaise de la Corée, ces arbres ont été plantés massivement sur notre territoire pour imposer une culture.
Et comment comptez-vous vous y prendre pour remplacer ces centaines de milliers d'arbres ?
Les cerisiers japonais ont une durée de vie d'environ 60-80 ans. Lorsqu'ils arrivent en fin de vie, c'est-à-dire bientôt, nous pensons qu'il faudrait les remplacer par des cerisiers indigènes. En revanche, dans certains lieux symboliques, comme les sites liés à la résistance anti-japonaise ou l'Assemblée nationale, nous pensons qu'un remplacement plus rapide est nécessaire.
De retour à Séoul, les rues et les berges du fleuve Han sont remplies de passants venus observer et immortaliser, appareil photo à la main, les cerisiers en fleurs. Lee Jong-gu, la cinquantaine, est l'un d'entre eux. S'il sait que les arbres qu'il contemple ont été plantés par l'occupant japonais, il ne souhaite pas trop y penser.
Le fait que les cerisiers se soient largement répandus en Corée à cause du Japon, c'est une histoire douloureuse. Ça nous rappelle notre passé. Mais on ne peut pas rester bloqué sur le passé, sinon on n'avance jamais. La Corée n'avancera jamais. Bien sûr, il ne faut pas oublier les leçons de l'histoire. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de rejeter ce qu'on a aujourd'hui. On peut simplement profiter du printemps tel qu'il est.
Pour profiter du printemps et ses cerisiers, qu'ils soient coréens ou japonais, il faut vite s'y prendre. La floraison ne dure que quelques jours par an, un instant éphémère qui émerveille tout le monde, aussi bien à Séoul qu'à Tokyo. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
À Séoul, où il est 13h passées de 16 minutes, 9h16 à Islamabad. Pakistan, où avait lieu hier une longue journée de négociations entre délégations américaines et iraniennes. Vous l'avez entendu dans le journal, le vice-président américain J.D. Vance a pris acte de l'échec de ces premières négociations, annoncé le retour de la délégation américaine à Washington. Les États-Unis qui ne parviennent pas à se sortir de la guerre qu'ils ont déclenchée aux côtés d'Israël le 28 février dernier, avec des objectifs militaires loin d'être clairs et une résistance iranienne inattendue. Franck Alexandre.
Tout au long du mois de mars, les buts de guerre américains n'ont cessé de changer. Le démantèlement du programme nucléaire et la chute du régime iranien sont progressivement passés à la trappe. Début avril, le président Trump indique qu'il n'a même plus besoin d'un deal, mais il exige la réouverture du détroit d'Ormuz pour finalement juger que le plan 10 points de Téhéran est une bonne base de négociation. Une gestion erratique qui sonne comme une victoire pour Téhéran, dont la résistance a été largement sous-estimée. Estimé par le commandement américain, pointe le géographe spécialiste de l'Iran, Bernard Ourcade.
On ne voyait l'Iran qu'en termes islamiques. C'était l'Iran des mollahs, cet immense leurre. L'Iran, c'est une nation. C'est une population ancienne, puissante et forte. Et dans cet nationalisme iranien, cet attachement à la patrie iranienne est extrêmement fort. On l'a négligé. La résistance iranienne est au cœur du programme politique iranien, quel que soit son régime, islamique ou non.
Initialement, la campagne devait être courte. Puis la guerre s'est enlisée. Surtout, souligne Bernard Ourcade, l'USCENCOM, qui gère les opérations militaires au Moyen-Orient, a mal anticipé le concept de défense avancée iranien, c'est-à-dire sa capacité de porter le fer avec ses missiles et ses drones dans toute la région.
Ils ne défendent pas la frontière, il n'y a plus de combat sur la frontière, les troupes américaines ne sont pas rentrées en Iran. Par contre, l'Iran a mis en place le système qu'on avait vu uniquement avec celui des proxys, c'est-à-dire d'alliés de l'Iran au Hezbollah, en Irak ou à Houthi, transformé en utilisant les pays voisins. en attaquant les pays voisins, en leur disant « Vous êtes mes voisins, je vous attaque pas, mais vous abritez les Américains, et donc j'attaque les bases américaines chez vous. Et si vous voulez que ça s'arrête, dites à vos amis américains de quitter le territoire. »
Dans le golfe Persique, la guerre a donc rebattu les cartes. Avant le 28 février, accueillir une base américaine était un gage de sécurité, c'est désormais un danger.
Ça fait prendre conscience aux pays de la région que leur sécurité ne dépend pas des Américains, mais dépend d'une coopération régionale. Et alors, cette guerre est importante, elle impose de repenser la sécurité régionale du Golfe Persique. Que les Iraniens souhaitent, les pays voisins aussi souhaitent, ce ne sont plus les grandes puissances. États-Unis sont un danger, incapables de gérer cette affaire. La Russie est hors-jeu. L'Europe n'existe plus. Donc il faut trouver d'autres solutions de sécurité régionale. Puisque l'Amérique s'est suicidée en quelque sorte dans cette guerre, a été vaincue, de retrouver de nouvelles architectures de sécurité régionale. Et c'est ça qui est important.
Une nouvelle architecture de sécurité possiblement sans les États-Unis, Washington a peut-être perdu une part importante de son influence dans cette aventure iranienne.
Franck Alexandre, c'était la chronique Ligne de défense. On va parler de biodiversité, c'est dans ta nature. Florent Guignard nous parle ce matin du manchot empereur, désormais en danger sur la liste rouge des espèces menacées.
Le changement, le réchauffement climatique est deux fois plus important en Antarctique. L'eau devient plus chaude et le krill, ces petites crevettes à la base de la chaîne alimentaire marine, vit désormais dans des eaux plus profondes où il fait plus froid. Leurs prédateurs, mammifères et oiseaux doivent ainsi plonger plus profondément. Christophe Guinet est directeur de recherche au CNRS. Il travaille à la station scientifique des îles Kerguelen.
Ils doivent consacrer plus de temps à descendre pour atteindre la profondeur où se trouvent les proies, plus de temps pour remonter à la surface pour respirer. Et donc, ça va diminuer le temps efficace de pêche, qui est le temps passé au fond de la plongée.
Alors, certaines espèces préfèrent voyager plus pour plonger moins. C'est le cas des éléphants de mer.
Les femelles éléphants de mer que l'on équipe de balises vont s'alimenter en moyenne 350 km plus au sud qu'elles ne le faisaient il y a 20 ans. Donc, ça veut dire 6 jours passer en plus à voyager sur un voyage de 7 mois. C'est pas majeur, surtout si à l'endroit où vous allez, vous trouvez beaucoup de nourriture, et ce qui semble être le cas.
Mais c'est un problème pour les manchots qui doivent aller pêcher plus loin, faire le plein de nourriture non digérée pour leurs petits rester sur terre. Une vraie course contre la montre, Christophe Guinet.
100 km de plus pour accéder à la nourriture, ça veut dire pratiquement 2 jours de plus pour accéder à la zone de pêche, 2 jours de plus pour revenir sur un voyage qui doit faire 10 jours au maximum, 15 jours au maximum. Si vous voulez revenir avant que le poussin meure, ben là, ça commence à avoir un effet énorme.
Les jeunes manchots sont aussi menacés par la fonte de la banquise avant que leur plumage ne soit imperméable. Des colonies sont aujourd'hui régulièrement décimées quand la glace se brise et que les oiseaux se noient dans l'eau froide.
Ils iront sur la banquise, passer quelques mois d'été. Photographier quelques plages pour un peu de monnaie. Le monde a changé, il s'est déplacé. Quelques vertèbres.
Comment les manchots se reconnaissent ?
Alors ce fut longtemps une énigme. Revenu l'estomac plein, comment retrouver son petit et le parent qui lui tient chaud au milieu de centaines de milliers d'individus regroupés sur la banquise ? Eh bien le manchot se fie à la voix, même à des centaines de mètres. Bon, comme ça, dans ce vacarme, ça n'a pas l'air évident. Et pourtant, les retrouvailles ont toujours lieu. Chaque manchot, en fait, a un cri unique, une espèce d'empreinte, non pas digitale, mais vocale. Dès sa naissance, le poussin apprend à reconnaître la voix de ses parents et inversement. Bon, pour ça, les manchots sont pas manchots.
Et c'était Florent Guignard. C'est dans ta nature, c'est tous les dimanches sur RFI.
Vivre ailleurs.
La chronique d'RFI sur l'expatriation. Corinne Mandjou a pu joindre des membres de la communauté française de Dubaï qui ont accueilli avec soulagement l'annonce d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis. Parmi eux, Geoffroy Buntel, expatrié à Dubaï depuis 14 ans et cofondateur du think tank Institut des Français de l'étranger.
Écoutez, l'état d'esprit, il est plutôt optimiste. Depuis le cessez-le-feu, même s'il a connu quelques entorses, je pense qu'on est tous maintenant plutôt dans un esprit de sortie progressive de crise. Donc on commence à préparer préparer la suite. Voilà, donc il y a, si vous voulez, un sentiment global, après un mois, d'une part, de lassitude quand même, hein, ça a duré plus longtemps qu'on ne pensait, mais en même temps, de fierté que la communauté française, qui s'est beaucoup entraînée, qui s'est serré les coudes avec des initiatives très fortes, comme Frontraide, par exemple, qui a une boucle WhatsApp qui a permis de réunir plus de 2000 Français pour s'aider sur de l'aide au rapatriement, de touristes, notamment de l'aide à l'hébergement, du soutien psychologique, et puis aussi fierté vis-à-vis des Émirats qui ont su maintenir le pays en situation de fonctionnement normal.
À quoi ressemblait le quotidien des Français pendant ce mois de conflit ?
La vie continue à peu près normalement, donc les entreprises continuent à fonctionner, les magasins sont ouverts, les malls sont ouverts, les services publics fonctionnent, les transports fonctionnent, donc on est sur un fonctionnement à peu près normal. Ici, la continuité des opérations a été bien mise en œuvre, et je pense que tout ce qui a été appris au moment du Covid a été très utile, mais néanmoins, la plupart des entreprises ont aussi mis en place déjà des facilités et un peu de souplesse pour permettre à ceux qui le souhaitaient et qui le pouvaient, compte tenu de leur rôle, de travailler à distance, parfois même de travailler depuis l'étranger. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le pays fonctionne normalement. Les écoles fonctionnent en mode enseignement à distance, donc il y a évidemment plus de bus scolaires, il y a beaucoup moins de circulation de ce fait. Donc, fonctionnement normal, mais je dirais avec quand même des ajustements assez importants. Et il est clair que l'enseignement à distance est aussi un défi pour beaucoup de parents qui continuent à travailler et qui, du coup, ne peuvent plus compter sur l'école pour leurs enfants.
Alors, j'imagine que les Français ne réagissent pas tous de la même façon à cette situation inédite.
Je dirais d'abord qu'il y a quelque chose de très personnel dans la façon dont vous faites face au bruit des interceptions. Donc, c'est quand même parfois des bruits assez forts. Il y en a beaucoup moins et c'est un soulagement. Bon, il y a des gens qui ont préféré partir quelques semaines aussi à l'étranger pour éviter ça. Il y a des gens qui ont considéré que n'étant pas en danger, ils ont fait abstraction de ces nuisances et du stress qui est lié à ça. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de bon ou de mauvaise réaction. Chacun réagit en fonction de son tempérament, de son caractère.
Quand vous parlez d'interception, il s'agit bien d'interception.